Le chapitre 35, que nous allons lire maintenant.
Prière de se rapporter à sa Bible pour la lecture en totalité de ce chapitre 35 qui n'a pas été reproduit sur cette cassette.
Qu'étaient ces Rechabites ? Ces Rechabites étaient des gens qui descendaient d'un peuple appelé, d'une tribu appelée les Kéniens. Ainsi que nous le dit le premier livre des Chroniques, 1 Chronique, chapitre 2 et verset 55. Et les familles des scribes demeurant à Jaébets, les Tiréatiens, les Chiméatiens et les Sukatiens, ce sont les Kéniens issus de Hamath, père de la maison de Rechab. Père de la maison de Rechab. Donc, les Kéniens, c'est eux qui avaient enfanté cette maison, ou cette tribu, si vous voulez, de Rechab. Les Kéniens sont ce peuple qui est aussi appelé les Kénites. Les Kénites, et ils provenaient des Médianites. Et parmi eux, il y a un personnage biblique bien connu, c'est Jéthro, le beau-père de Moïse. Le beau-père de Moïse était un Kénite. Ces Kénites pénétrèrent en Canaan avec les Israélites et ils furent progressivement assimilés par eux. Et chose extraordinaire, ce clan, cette tribu qui provenait du peuple beaucoup plus important appelé les Médianites, cette tribu en Canaan montra à bien des époques plus de fidélité que le peuple d'Israël. Et pourtant, ils n'étaient pas, n'est-ce pas, du peuple d'Israël. Ils étaient de Madian. C'étaient des nomades par vocation. Et un de leurs ancêtres, qui est cité dans notre chapitre, Jonadab, fils de Rechab, avait joué un rôle aux côtés de Jéhu, fameux Jéhu. Jéhu qui va massacrer toute la maison d'Akab, cette maison abominable, n'est-ce pas, la maison d'Akab, et détruire entièrement toute la famille d'Akab, par conséquent la dynastie d'Akab. Nous voyons en effet dans deux rois, deuxième livre des rois, chapitre 10, et versets 15 et 16. Étant parti de là, Jéhu, il rencontra Jonadab, fils de Rechab. Le voilà, n'est-ce pas, ce personnage dont il est parlé dans notre chapitre 35 de Jérémie. Jonadab, fils de Rechab, qui venait au-devant de lui, il le salua et lui dit, « Ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien ?» Et Jonadab répondit, « Il l'est. » »« S'il l'est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main. » Jonadab lui donna la main et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char et dit, « Viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. » Il l'emmena ainsi dans son char. Bon, vous connaissez, je pense, cette histoire de Jéhu, n'est-ce pas, roi d'Israël, qui va supprimer l'abominable maison du roi Akab, et qui va devenir, lui, roi d'Israël. Bon, nous ne voulons pas nous intéresser à Jéhu maintenant, mais c'est pour montrer que ce Jonadab, fils de Rechab, avait donc joué un rôle du temps de Jéhu, et il remontait à ce temps-là. C'était lui qui avait ordonné à sa tribu, de conserver la vie nomade. Donc, de ne pas bâtir de maison, de ne semer aucune semence, de ne pas planter de vigne, de ne pas posséder de vigne, n'est-ce pas ? Et puis, essentiellement, de ne pas manger, boire du tout de vin. De ne pas boire de vin. Jamais boire de vin. Et en cela, il avait pris un peu, même beaucoup, le style de vie des naziréens. Les naziréens au nombre desquels on comptait par exemple Samson. Ces Rechabites, comme le dit notre chapitre, voyant que Jérusalem, que le pays de Juda était investi par les armées chaldéennes, sous la conduite de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se réfugient à Jérusalem. Ils viennent se réfugier à Jérusalem, pensant que Jérusalem, certainement, allait tenir, n'est-ce pas ? Ils viennent donc habiter Jérusalem à cause de l'invasion du pays par les Chaldéens. Et voilà la situation, n'est-ce pas, au moment où Jérémie a cette invitation de la part de l'Éternel d'aller à la maison des Rechabites. Va à la maison des Rechabites. Vous savez que nous l'avons déjà noté, l'Éternel Dieu se servait de ses serviteurs, les prophètes, non seulement comme porte-parole, mais aussi pour mener certaines actions qui avaient un caractère démonstratif, symbolique. Cela arrive souvent dans les prophètes, n'est-ce pas ? Va et tu vas faire telle chose. C'est cela à une démonstration. Le peuple va avoir son attention attirée sur cette action du prophète. Le prophète, tout de même, est quelqu'un, n'est-ce pas, qui produit une certaine impression, qui jouit d'une certaine autorité, même si on le déteste, même si on veut le mettre à mort et le persécuter. Cependant, n'est-ce pas, on ne peut pas ne pas lui reconnaître une certaine autorité. Et quand il fait quelque chose, on est attentif, on se demande ce que ça va signifier. Alors là, va à la maison des Rechabites et parle-leur, tu les conduiras à la maison de l'Éternel, c'est-à-dire au temple, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin. Alors Jérémie, sans discuter, sans savoir exactement, puisque, n'est-ce pas, là, le Seigneur ne lui dit pas pourquoi il faut faire cette invitation, mais nous voyons, n'est-ce pas, le prophète immédiatement obtempérer. Il ne discute pas. Mais il ne dit pas, mais pourquoi faire, Seigneur ? Pourquoi m'envoies-tu vers ces gens-là ? Tu veux que je leur offre du vin, mais tu sais bien, ils ne veulent pas en boire du vin, ils n'en boivent pas. Nous connaissons, n'est-ce pas, un peu, nous aussi, maintenant, des peuples qui se sont donnés pour consigne de ne jamais boire de vin, les peuples arabes, par exemple, n'est-ce pas ? Bon, se gênent pas pour en boire en cachette, évidemment, enfin, n'est-ce pas, ouvertement, ils n'en boivent pas. Enfin, quand même en cachette, ils en boivent peu, parce que on a bien vu en Algérie, par exemple, que la consommation de vin, la consommation locale était extrêmement faible. Elle était à peine 1 million d'hectolitres quand les Français y étaient. Alors, vous voyez que ce n'était pas énorme. Mais enfin, il y a cette consigne dans ces peuples arabes. D'ailleurs, le nomadisme existe toujours, et le nomadisme repose sur une consigne telle que celle des Rechabites, ne pas bâtir, ne pas posséder, mais errer, aller de lieu en lieu et vivre sous la tente, comme disent les Arabes, sous la raïma. Jérémie ne demande pas d'explication, il fait ce qu'on lui demande. Puissions-nous être obéissants comme le fut ce serviteur-là, et comme le furent aussi d'autres serviteurs, et comme le fut le grand serviteur de l'Éternel, notre Sauveur et Maître Jésus. Alors, il les conduit dans une chambre du temple, et là, il a disposé des coupes, les a remplies de vin, hein, et puis il leur dit, allez, buvez du vin. Buvez du vin. Le lieu était de nature à inciter ces gens plutôt à obéir au prophète Jérémie. Il y avait là, d'ailleurs, une invitation solennelle. Jérémie n'a pas fait mystère. Il n'a pas dit, c'est moi qui décide ça. Il a dit, voilà, j'ai reçu une parole de l'Éternel qui me charge d'aller vous prendre et de vous mener au temple. Et puis là, dans une chambre, de vous présenter des coupes de vin et de vous inviter à boire du vin. Je fais ça, donc, sur l'ordre de l'Éternel. Pourquoi ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je fais ça sur l'ordre de l'Éternel. Jérémie n'a pas caché, bien que ce ne soit pas précisé, mais il n'avait aucune raison de le cacher. Et d'ailleurs, l'Éternel ne désire jamais n'est-ce pas, utiliser ces prophètes pour des actions dissimulées, n'est-ce pas. Dans le temple, les Récabites, qui n'étaient pas, attention, du peuple d'Israël, n'est-ce pas, même membres du peuple d'Israël, entraient dans le temple, dans une chambre du temple, c'était déjà quelque chose sous la conduite du prophète de Dieu. Ah, alors là, n'est-ce pas, ils n'y seraient pas entrés tout seuls. Mais sous la conduite du prophète de Dieu, ils vont là. Vous voyez, c'était solennel, n'est-ce pas? Remarquons bien cela, n'est-ce pas? C'est quelque chose de solennel. Venez, entrez, entrez. C'est l'Éternel qui vous le dit. Entrez ici dans cette chambre. Et là, eh bien, buvez du vin. Voyez ces coupes pleines, buvez de vin. Le temple, donc, le prophète de Dieu, une invitation à boire du vin venant de l'Éternel, les Récabites auraient donc pu être impressionnés par tout cela, n'est-ce pas, au point de se dire, quelle que soit notre propre ligne de conduite, nous ne pouvons, dans cette circonstance, qu'obéir à Dieu et au prophète de Dieu, n'est-ce pas, pouvons qu'obéir. Ah là, bien sûr, nous ne buvons pas de vin chez nous, dans nos maisons, mais là, si l'Éternel nous dit de boire du vin, eh bien, buvons-en. Voyez que l'épreuve était solide, il ne s'agissait pas, n'est-ce pas, de leur présenter du vin dans leur propre maison, n'est-ce pas, de les inviter à boire du vin, ça, ils auraient refusé très facilement, mais là, n'est-ce pas, le refus était quelque chose de beaucoup plus difficile, étant donné qu'ils étaient conduits dans le temple et que c'est de la part de l'Éternel et qu'ils recevaient cette invitation à boire du vin. Or, voici que les Récabites adoptent sans aucune hésitation le refus de boire du vin, le refus à Jérémie, et cela, ils le déclarent, afin de rester fidèles à l'ordre de leur ancêtre Jonadab, qui leur a bien recommandé de ne jamais boire du vin, ni eux, ni leurs fils, ni leurs filles, ni leurs épouses, n'est-ce pas? Eh bien, ils sont fidèles à l'ordre de leur ancêtre Jonadab. Ici, bien entendu, il ne s'agira pas dans cette démonstration du bien ou du mal fondé de l'abstinence de vin des Récabites. Il ne s'agit pas de juger de cela. Ce n'est pas de cela. Ils étaient comme ça, ils avaient eu cet ordre de leur ancêtre. Bien. Il ne s'agit pas d'examiner le bien fondé de cela. Hein. On n'aurait pas tiré à tort, n'est-ce pas, de ce passage une théorie, par exemple, en faveur de l'abstinence de vin, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir. Ils étaient, eux, ils avaient cette recommandation de s'abstenir de vin et ils la respectaient. Voilà tout. Eh bien, c'est une épreuve pour voir jusqu'où va aller leur refus de boire du vin, n'est-ce pas, même quand c'est un ordre de l'Éternel. Donc, il ne s'agit pas de l'abstinence elle-même, mais il s'agit de la persévérance de ces gens-là dans l'obéissance à une prescription qui régit leur clan. L'obéissance est donc solidement attachée à la volonté de ces gens-là. Ils mettent leur volonté dans l'obéissance. Et on ne peut pas ébranler leur volonté, même, n'est-ce pas, de cette manière solennelle, même par une invitation de l'Éternel qu'ils connaissaient et qu'ils aimaient, n'est-ce pas? Attention, n'étaient pas israélites, mais ils étaient assimilés au peuple d'Israël et ils servaient Yahvé, le Dieu d'Israël. Ils le servaient même quelquefois mieux que les Israélites eux-mêmes. Alors, aussitôt après cette démonstration, n'est-ce pas, du refus catégorique des Récabites, Jérémie est chargé d'une mission vers le peuple de Jérusalem. Et le message qu'il doit apporter au peuple de Jérusalem va faire un rapprochement. Message qui va faire un rapprochement entre deux choses. Premièrement, la conduite de Judas, qui n'écoute pas les paroles de Dieu, qui désobéit constamment, alors que Dieu est, lui, un père, et un père qui devrait avoir beaucoup plus de poids, d'importance, que Jonadab, l'ancêtre des Récabites, n'est-ce pas ? La conduite de Judas, donc, d'une part, qui est caractérisée par une constante désobéissance, et la conduite exemplaire, quant à l'obéissance, des Récabites, qui ont reçu une consigne de leur ancêtre, et qui la respectent, et qui attachent leur volonté à ce respect. Cette comparaison est en fait. Voilà, n'est-ce pas, les fils de Récab, qui sont absolument fermes dans leur voie d'obéissance, n'est-ce pas, à un commandement de leur ancêtre, et puis moi, l'Éternel, qui suis votre père, qui vous ai parlé dès le matin, dès le commencement, qui vous ai même envoyé mes serviteurs les prophètes pour vous adresser des rappels à l'ordre, pour vous adresser encore de chaudes invitations à revenir dans la voie de l'obéissance, vous n'avez rien écouté. Rien écouté, vous n'avez obéi à rien du tout. Chez vous, c'est la désobéissance, et votre père, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est même pas un homme, c'est Dieu, votre père. Votre père, c'est Dieu. Tandis qu'eux, ils ont un père qui prend place dans leur ascendance, un père qui n'est qu'un homme, et ils obéissent à ce père. Voilà quelque chose, n'est-ce pas? Des parents, il faut bien dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une chose paradoxale. En somme, voilà, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, et qui est constamment dans la désobéissance, alors qu'une certaine tribu, là, n'est-ce pas, suit avec rigueur et avec persévérance une tradition qui lui est propre et qui vient de l'un des siens. Une tradition humaine, purement humaine, et qui lui est propre. Alors, des commandements d'hommes, on les respecte, et des commandements de Dieu, ça, pas du tout. Pire, n'est-ce pas, c'est que Dieu a mis une insistance que Jonadab, fils de Récab, n'a pas pu mettre parce qu'il est mort, n'est-ce pas, et il n'a pas, lui, envoyé de prophètes. Eh bien, Dieu a envoyé des prophètes, et cela sans aucun résultat. Deux prophéties sont confiées à Jérémie. L'une pour confirmer les grands châtiments qui vont venir sur Juda. Dieu explique toujours son dispositif. Il explique toujours ses décisions. Il les explique et il avertit d'avance. Attention, les jugements ou les châtiments vont venir. Alors là, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés. Il les avait déjà annoncés, n'est-ce pas? Eh bien, il confirme là qu'il va les faire venir. Et il s'est servi de ce moyen pour montrer au peuple d'une façon frappante, que sa désobéissance était quelque chose, même que dont on ne trouvait pas le pareil dans des relations purement humaines, dans des conventions purement humaines. Ben, au contraire, dans des conventions humaines, on pouvait découvrir de l'obéissance, une obéissance totale, et puis, quand il s'agit des relations du peuple avec Dieu, c'est la désobéissance, c'est le désordre. Donc, une première prophétie pour annoncer les châtiments qui vont venir sur Juda, et une seconde pour annoncer aux Récabites un bonheur, un malheur pour Juda et Jérusalem, et un bonheur pour les Récabites. Et ce bonheur, c'est celui-ci, parce que vous avez observé tous ces commandements, les commandements de votre Père, et fait tout ce qu'il vous a prescrit, à cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Au milieu, d'abord, cette descendance va se perpétuer, n'est-ce pas? Elle ne s'éteindra pas, première chose, et puis, dans cette descendance, il va toujours se trouver des hommes qui serviront l'Éternel. Se tenir en sa présence, c'est servir l'Éternel. C'est quelque chose de magnifique, n'est-ce pas? Ça me rappelle cela, une certaine prophétie, une grande prophétie qui n'est pas ancienne du tout, qui n'est pas très ancienne, et qui disait, n'est-ce pas, à l'Église, à nous, bien sûr, qui disait, eh bien, si vous n'obéissez pas, et si vous n'écoutez pas tous les avertissements que je vous ai donnés, que je vous donne, que je vous prodigue, si vous ne vous sanctifiez pas, eh bien, j'en connais d'autres qui, eux, me serviront beaucoup mieux que vous. Et ce sont ceux-là que je choisirai. J'en connais d'autres. Ça me rappelle cette prophétie. Voilà, n'est-ce pas, qu'elle était l'analyse, si vous voulez, de cette prophétie, n'est-ce pas? Ah, vous, n'est-ce pas, vous n'écoutez pas, vous ne changez pas, vous ne réformez pas vos voies, vous ne progressez pas dans le bon sens, mais au contraire, vous rétrogradez, eh bien, sachez que j'en ai d'autres, et j'en choisirai d'autres que vous. C'était une prophétie cinglante. Je l'ai entendue. Je l'ai entendu, cette prophétie. Je l'ai entendu. Il y a simplement quelques années. Je l'ai entendu. Alors, chers amis, n'est-ce pas, c'est pourquoi vous me voyez quelquefois un petit peu raide, un petit peu brusque, peut-être, avec vous, chers amis. Ce n'est pas que je veux vous brusquer. Ce n'est pas que je vous aime pas, au contraire. Mais je voudrais vous aimer, n'est-ce pas, de l'amour, du même amour que Dieu. Je voudrais vous aimer, n'est-ce pas, pour vous inviter, pour vous inciter, vous exhorter, hein, à véritablement concevoir votre vie chrétienne d'une autre manière, à sortir de cette torpeur que l'on sent peser sur toute l'Église, je parle d'Église évangélique naturellement, n'est-ce pas, nous, les Églises que nous connaissons, cette torpeur, à en sortir de cette torpeur, à ne plus se laisser dériver, mais au contraire, à reprendre sa marche en avant, de progrès en progrès, dans la voie de la sanctification. Chers amis, mais il faut qu'aujourd'hui, on parle net, on parle ferme, c'est indispensable, parce que cette prophétie, ce n'est pas la seule que j'ai entendue, ce n'est pas la seule, mais celle-là, elle m'est restée, n'est-ce pas, parce que elle était tellement frappante, et elle ressemblait beaucoup, n'est-ce pas, à ce que fait ici, dans ce chapitre 35, ce qu'a fait l'Éternel à ce moment-là, du temps du prophète Jérémie, de dire au peuple Juda, pour vous, ce sera le malheur. Mais maintenant, je vais choisir des gens, n'est-ce pas, d'autres gens que vous, les Récabites, et les Récabites qui savent, eux, obéir, eh bien, je vais les bénir, c'est eux que je vais bénir. Alors là, c'est quelque chose, n'est-ce pas? C'est quelque chose. Il faut, bien entendu, quand on médite sur des textes comme celui-là, en tirer la leçon. Et la leçon, on peut dire qu'elle est claire, qu'elle est nette. La leçon qui se dégage de ce chapitre, c'est celle du prix, du grand prix, que l'Éternel Dieu attache à l'obéissance à ses commandements. Dieu attache, nous l'avons dit beaucoup au cours de cette retraite, il faut le continuer de le dire, l'Éternel attache un grand prix à l'obéissance. S'il n'y a pas l'obéissance, on peut faire tout ce qu'on veut, ou croire pouvoir faire tout ce qu'on veut, ça n'a pas de valeur devant Dieu. Ça n'a pas de valeur. Rappelons-nous, n'est-ce pas, cette parole qui est raide aussi, n'est-ce pas, du Seigneur, elle est raide. Au jour où il reviendra, des gens lui diront « Seigneur, Seigneur, N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Tu sais, tu nous connais bien, n'est-ce pas? Tu vois, nous avons prophétisé, nous sommes servis de ton nom. Nous avons fait des miracles, nous avons chassé des démons. Ah, alors nous t'appartenons, nous sommes ton église. Réponse du Seigneur. Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Et commettre l'iniquité, dans le langage biblique, c'est faire le contraire de la justice. Iniquité, c'est l'opposé de la justice. C'est-à-dire l'opposé de la volonté de Dieu. C'est-à-dire vous qui avez désobéi. Vous qui avez désobéi. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, ce qui veut dire je n'ai jamais eu de communion avec vous. Mais chers amis, il faut que d'un côté toutes les paroles merveilleuses qui sont pour nous des paroles d'amour et nous en avons rencontré, elles sont douces à notre cœur, nous sommes invités du côté de ce qui est sensible en nous, nous sommes invités par le côté sensible à servir l'Éternel parce que son amour est immense, parce que son amour nous confond tellement il est grand et tellement nous en sommes indignes, n'est-ce pas? Bon, et puis d'un autre côté, n'est-ce pas, les avertissements sévères, les avertissements rigoureux, les avertissements qui ne tergiversent pas. Et le Seigneur ne tergiverse jamais dans ses avertissements, n'est-ce pas? C'est cela qu'il a demandé, il faut lui obéir, et si on ne lui obéit pas, qu'on ne s'attende pas à quelque chose, n'est-ce pas, de bon venant de lui au moment du jugement ou au moment du rassemblement du Seigneur avec son Église, avec son peuple. Le prix que l'Éternel attache à l'obéissance, telle est donc bien la leçon de ce chapitre très intéressant, et rien n'a changé dans ce désir de Dieu, rien, absolument rien. Si nous lisons le Nouveau Testament, nous allons trouver ceci. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Pratiquer ses commandements ou obéir à sa volonté, c'est tout un, n'est-ce pas? Et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Et puis, ça, c'est dans la première épître de Jean, au chapitre 5, et nous pourrions nous reporter à la parole même prononcée par le Seigneur Jésus dans l'évangile de Jean, nous verrions ceci, « Celui qui a mes commandements, et qui les garde, garder dans le sens essentiel d'observer. » Vous pouvez d'ailleurs ouvrir un dictionnaire français, vous verrez qu'à garder, il y a le sens d'observer, n'est-ce pas? Garder, c'est le conserver pour observer. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Vous voyez, n'est-ce pas, comme l'obéissance est véritablement ce que l'Éternel désire. Pas de discussion, pas de grande théorie, non. La mise en pratique dans la vie, cette parole n'aurait aucun sens si elle n'était donnée pour la vie. Pour animer la vie, pour guider la vie. Cette parole nous renseigne, certes, sur la personne de Dieu, sur la personne de son Fils, de notre Sauveur, sur les desseins de Dieu, sur bien des sujets, mais elle n'aurait aucune utilité si elle était lue comme, hélas, on le fait tant de, à notre époque, n'est-ce pas, comme un document sur lequel il faut philosopher ou il faut disserter à longueur d'années et à longueur de vie, n'est-ce pas? Vous avez des théologiens, vous en avez qui s'échelonnent sur des siècles, ils ne font que cela, que de discuter. Ils discutent, ils ont bâti des systèmes, bâti des philosophies sur cette parole. Ils ont fini d'ailleurs par la détruire. Ils ont fini par la détruire. Et puis, la mise en pratique est complètement hors de question. Elle est hors de question. Ils en sont même arrivés, à force de détruire, à déclarer que Dieu est mort et à établir une théologie. C'est le comble, la théologie du Dieu mort. Alors, comme Dieu est mort, eh bien, c'est facile, on met l'homme à sa place, n'est-ce pas? Et c'est bien ce que fait notre siècle, il met l'homme à la place de Dieu, puisqu'il déclare que Dieu est mort. Ainsi donc, obéissance. L'obéissance, c'est ce que Dieu demande. Il le demande à son peuple. Et nous pouvons noter une chose, c'est qu'il est curieux que dans les relations entre un peuple qui se veut en relation avec Dieu, dans sa relation avec Dieu, il n'est pas aussi exact, aussi zélé, aussi consciencieux qu'il l'est dans ses rapports d'homme à homme. Dans la descendance des Récabites, on trouve, là, on découvre ce maintien d'une obéissance à une certaine consigne apparue du temps d'un ancêtre. Une consigne a été donnée et on l'observe rigoureusement. Nous avons cela dans le christianisme. Nous avons dans le christianisme cela, d'ailleurs le Seigneur Jésus l'a dénoncé lui-même, n'est-ce pas, devant les pharisiens. Oh, vous êtes zélé pour les commandements d'homme. Les commandements d'homme, ça, on ne pourrait que vous louer, si vraiment c'était cela qu'il fallait. Pour l'observation des commandements d'homme, vous êtes zélé. Mais quand il s'agit des commandements de Dieu, pas du tout. Et dans notre christianisme, c'est la même chose. Prenons les formes traditionnelles du christianisme, et essentiellement le catholicisme. Le catholicisme qui est un ensemble disparate, complexe, de toutes sortes de prescriptions. Il y a là, n'est-ce pas, en son sein, un droit, et toutes sortes de commandements, au milieu desquels, d'ailleurs, il est bien difficile de se reconnaître. Eh bien, dans le catholicisme, on a eu jusqu'à maintenant, et on en a même encore, des gens qui appliquent leur zèle à observer ce que l'Église, comme ils disent, n'est-ce pas, quand ils parlent de l'Église, c'est le catholicisme. Ils ne parlent pas de l'Église de Jésus-Christ, ils parlent du catholicisme. Ce qui, l'Église, n'est-ce pas, l'Église avec sa tête à Rome. Eh bien, ce que l'Église leur a dit, leur a ordonné, hein, ils sont chauvins là-dessus, absolument chauvins. Mais vous ouvrez l'Évangile, dont ils ne peuvent pas renier, n'est-ce pas, le texte, l'authenticité. Vous ouvrez l'Évangile, ils vous diront bien, ben oui, vous ouvrez même, prenons l'Évangile, n'est-ce pas, de traduction catholique, et vous leur dites, mais c'est bien la parole de Dieu, cela, c'est inspiré, cela. Ils vous diront, mais oui, bien sûr, c'est inspiré. Bon, eh bien, lisons dans l'Évangile, et vous pourrez leur lire bien des choses, n'est-ce pas, qu'ils n'observent plus du tout. Ils observent même le contraire. Ils font le contraire. Vous pourrez leur lire, et ça ne leur fera absolument rien. Rien. Ils n'ont là, pour la parole de Dieu, aucun zèle, aucun mouvement, même les portant à l'obéissance. Ah non, ils obéissent avant tout à la tradition de leur système et de leur Église. Ils obéissent à ça, n'est-ce pas? Et ça, c'est très caractéristique. Combien j'en ai vu de ces catholiques, n'est-ce pas, qui sont fauvins absolument, n'est-ce pas? Il n'y a rien à faire, c'est comme les récabites, là, n'est-ce pas? Vous ne les feriez pas dévier de leur affaire, n'est-ce pas? Il faut qu'ils assistent à la messe dans telles conditions, il faut qu'ils prient pour les morts, n'est-ce pas? Eh bien, ils le font avec ponctualité, avec application. Dans ma propre famille, ça s'est fait tout récemment. Nous avons, au cours du printemps, perdu ma belle-mère, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons un frère, mon beau-frère, n'est-ce pas, qui est venu à l'inhumation, il a bien vu comment ça se passait, puis enfin il connaît bien notre position, n'est-ce pas? Ça a été une inhumation faite à l'Église évangélique, n'est-ce pas, par des représentants de l'Église évangélique. Et ça a été fait tout simplement, n'est-ce pas, bien entendu, n'est-ce pas, avec simplement la parole de Dieu et la prière toute simple, non pas pour les morts, mais pour les vivants. Il a vu tout cela. Et ensuite, eh bien, il a voulu faire dire une messe pour le repos de l'âme de sa mère, n'est-ce pas, qui, elle, était chrétienne évangélique, qui était baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par immersion, qui, par conséquent, n'est-ce pas, avait, elle, rejeté toutes les formes du catholicisme entièrement. Ben, il a voulu faire cela. Et quand on lui a fait une observation par lettre et qu'on lui a dit, parce qu'il demandait qu'on s'associe ce jour-là, ils avaient prévenu du jour de la messe, n'est-ce pas? Et il voulait qu'on s'associe en pensée à sa messe, n'est-ce pas? Vous pensez s'il tombait bien. Alors, on lui a répondu en lui disant, n'est-ce pas, que ça n'avait non seulement aucun sens, mais on lui a cité la parole de Dieu, en lui montrant, n'est-ce pas, que c'était une chose à ne pas faire. C'était une chose qui n'était pas agréée de Dieu et qui était même offensante à l'égard de Dieu, qui était une désobéissance à la parole de Dieu. On lui a montré les textes. Eh bien, rien à faire. Sa tradition, il a répondu après, n'est-ce pas, qu'il ne comprenait pas cela et qu'il avait bien fait de faire dire une messe et il en fera peut-être dire d'autres encore, n'est-ce pas? Voyez-vous? S'il veut dépenser son argent comme ça, il en est libre, mais enfin, n'est-ce pas, c'est pour vous montrer, il n'y a rien à faire. On pourrait dire que même, n'est-ce pas, le zèle à observer des commandements d'hommes qui sont même en contradiction avec les commandements de Dieu, avec la parole de Dieu, n'est-ce pas, eh bien, ce zèle est quelque chose d'indécrottable. Indécrottable. Alors ça, c'est curieux que dans la relation avec Dieu, et relation, c'est le sens du mot religion, n'est-ce pas? Dans la relation avec Dieu, les hommes, une relation qui est faussée par la tradition, naturellement, eh bien, les hommes sont zélés. Alors là, oui, ils sont appliqués. Là, ils sont déterminés à se conformer à l'Église. L'Église nous dit que, n'est-ce pas? Il faut faire ce que l'Église dit. Et puis, quand il s'agit d'obéir à la parole de Dieu, qui est claire, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'elle est claire en toutes ses parties, mais il y a beaucoup, beaucoup de textes qui parlent et qui disent bien ce qu'il veut dire. Quand le Seigneur dit, par exemple, « N'appelez personne votre Père, parce que vous n'avez qu'un seul Père. » C'est Dieu qui est dans les cieux. N'appelez personne votre directeur, parce que c'est moi qui suis votre directeur, il n'y en a qu'un, n'est-ce pas? Eh bien, quand on persiste à appeler des gens pères, ou appeler le chef prétendu de l'Église à Rome, n'est-ce pas, l'appeler papa, parce que pape, ça veut dire papa, ça veut dire père, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? C'est une désobéissance, on ne peut plus flagrante, désobéissance qui persiste. L'homme est véritablement, n'est-ce pas, un obstiné. Vous voyez, n'est-ce pas, devant quelle obstination se trouve Dieu? Eh bien, il ne faudrait pas que nous, dans notre milieu évangélique, nous ayons encore les séquelles, je dis bien des séquelles parce que nous avons été comme tous les autres, obstinés, n'est-ce pas? Et pendant longtemps peut-être. Eh bien, il ne faut pas que nous ayons les séquelles de cette obstination et que nous ayons le cœur porté à obéir à quelque chose que nous savons venir de Dieu. N'est-ce pas? Obéir à celui qui est notre Père. Nous n'en avons qu'un. C'est lui qui est notre Père. Eh bien, c'est à lui que nous avons à obéir. Mettons à lui obéir le zèle que mettaient ces récabites à obéir aux consignes de leur père, n'est-ce pas? Mettons-les, nous, mettons ce zèle à obéir à la parole et au commandement de notre Dieu. Amen.